Terre, le 18-20.
Le 18-20 ce soir sur les prisons en France. C'est une journée spéciale que la rédaction de France Inter vous propose sur ce thème. Si vous avez écouté le 7-9 de Patrick Cohen, peut-être aurez-vous retenu ces deux chiffres. Environ 59 000 places de prison pour un peu moins de 70 000 détenus, soit un taux de surpopulation carcérale de 118%, avec pour conséquence des conditions de vie difficiles pour les détenus, des conditions de travail parfois impossibles pour les surveillants. Certains du coup parlent des prisons françaises comme de cocottes minutes ou de poudrières, où il est compliqué de faire régner une sécurité élémentaire pour tous. On en parle ce soir dans le Téléphone Sonne.
Nicolas Demorand, le Téléphone Sonne.
01 45 24 7000, franceinter.fr, Twitter avec le mot-clé Telson. C'est Pierre-Yves qui nous appelle d'Auvergne et qui démarre ce téléphone sonne. Soyez le bienvenu Pierre-Yves, bonsoir.
Bonjour et félicitations pour cette journée vraiment exceptionnelle. Moi j'ai franchement beaucoup apprécié. Cela dit, sur le fond, ça me révolte. Ça me révolte que l'on envisage de construire des prisons qui sont et qui ont toujours été des écoles du crime et même du terrorisme, on le voit. Moi, je pense qu'il faudrait effectivement, comme la majorité des gens que j'ai pu entendre ce matin, privilégier toutes les alternatives à l'incarcération et même en conformité avec la loi, puisque j'ai appris ce matin que la loi de 2009 disait clairement que la prison devait être l'ultime solution. Alors moi, je me demande pourquoi les magistrats continuent à remplir les prisons. Et comme la nature a horreur du vide, construire, mais envoyer en prison. Et comme la nature a horreur du vide, évidemment, plus on en construit, plus on en met. Voilà. Alors, pourquoi les magistrats ont une telle politique, j'allais dire même en violation de la loi?
Merci Pierre-Yves pour cette longue question. Merci aussi pour vos remerciements, pour le dire tout simplement, à propos de cette journée spéciale que vous propose la rédaction de France Inter. Pour vous répondre, Philippe Campagne, bonsoir.
Bonsoir.
Secrétaire national FO pénitentiaire, Laurence Blisson, bonsoir.
Bonsoir.
Secrétaire général du syndicat de la magistrature, vous êtes juge d'application des peines. Et on termine ce tour de table avec Joachim Pueyo, bonsoir monsieur. Bonsoir. Le député socialiste de l'Orne et ancien directeur de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Qui veut répondre à Pierre-Yves? Monsieur le député?
Actuellement, dans le code de procédure pénale, effectivement, on a tous les moyens pour exécuter des peines, soit des peines en prison, soit des peines en milieu libre, soit d'aménager les peines. Je vous donnais deux chiffres. Actuellement, nous avons 172 000 personnes condamnées et qui sont suivies en milieu libre par les services de probation. Et 68 000 qui sont dans les prisons. Et sur les 60 000 détenus, nous avons simplement que 26 000 détenus qui sont seuls en cellule. Donc il y a un réel souci au niveau des conditions de détention des détenus et au niveau des conditions de travail des personnels. Donc je pense qu'il fallait effectivement construire des places nouvelles de façon à ce que la loi de 1875 soit enfin appliquée. Et moi je me félicite que
celle
le garde des sceaux
dit qu'on doit être seul dans une cellule.
Parce que seul en cellule, ce qui ne veut pas dire seul toute la journée, bien sûr il faut parallèlement mettre en place des activités, le travail, la formation professionnelle, les activités de sport et des activités culturelles pour maintenir le lien social et favoriser l'insertion. Mais actuellement, c'est très difficile de donner un sens à la peine lorsque vous avez que 26 000 détenus qui sont seuls en cellule. Vous avez des cellules où il y a 9 mètres carrés avec 3 détenus, avec des matelas par terre, 1500 matelas. Donc là, je dis qu'on ne peut pas continuer ainsi.
Laurence Blisson.
Alors moi je suis en accord total avec votre auditeur, hein, pour dire d'abord que c'est exceptionnel et important de parler de la prison, mais aussi pour dire que la construction des places de prison n'est pas la solution, puisque comme il l'a indiqué, plus on construit, plus en réalité elles se remplissent. Alors pourquoi est-ce que les magistrats continuent à envoyer des gens en prison? Ce qu'on constate d'abord, c'est que la loi a été finalement parfois schizophrène. Parce que cette loi de 2009 dit très clairement l'emprisonnement l'emprisonnement est le dernier recours et qu'en même temps se développent de très nombreuses infractions pénales de faible gravité pour lesquelles néanmoins c'est la prison qui est encourue. Les politiques pénales ont systématiquement finalement sont allées dans le sens de ce recours plus important aux peines d'emprisonnement. Et puis là, par ailleurs, on voit que les budgets sont mis dans la pierre. Ils sont mis dans la construction de places de prison. Alors même que ce qui déterminerait des magistrats à prononcer des peines en milieu ouvert, c'est le fait de savoir notamment que le suivi en milieu ouvert a une consistance extrêmement importante. Aujourd'hui, on a des outils juridiques très clairement pour prononcer des peines en milieu ouvert ou pour prononcer des aménagements de peine. Mais où sont les foyers? Où est le suivi social? Combien de temps est-ce qu'on met pour avoir un rendez-vous dans un centre médico-psychologique? Combien de temps est-ce qu'on met pour obtenir une formation? Et ça, c'est le contenu d'une mesure d'aménagement de peine qui est essentielle pour prévenir la récidive, mais qui fait défaut. Mmh. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, ce que nous disons, c'est que ces 3 milliards d'euros, il faut les mettre dans le suivi en milieu ouvert, dans la réinsertion, pas dans la construction de nouvelles places dont on sait qu'elles vont aspirer de nouvelles détentions et conduire à un maintien de cette situation insupportable de surpopulation carcérale.
Allez, on continue ce tour de table avec Philippe Campagne. Je rappelle que vous êtes secrétaire national FO pénitentiaire. Sur la question de notre auditeur, Pierre-Yves.
Écoutez, moi, je suis ravi d'entendre ça. Bon, maintenant, je vis dans un monde qui n'est pas idéal. Cette question, on se la pose depuis des décennies, voire plus. Est-ce qu'il faut une prison et puis mettre des gens à l'intérieur? Écoutez, moi, j'ai envie de vous dire, et les surveillants pénitentiaires que je représente, la question n'est plus là. Les prisons sont là, on met des gens qui ne sont plus aptes à rester en société, qui ont été jugés pour des faits quand même parfois très graves. Je reviendrai pas sur l'actualité brûlante du terrorisme, à l'époque c'était le grand banditisme. Moi j'entends qu'il faut réformer la prison. Je suis d'accord à mettre plus de moyens également sur les acteurs de la prison, c'est-à-dire des psychologues, des unités hospitalières, ce qu'on a commencé à faire ces derniers temps, et aller plus loin sur les milieux ouverts. Je suis content que le ministre aussi parle de QPS, de la préparation à la sortie, parce que c'est la fin de la mission d'un surveillant pénitentiaire, c'est rendre meilleure la personne et la réinsérer dans la société. Pour autant, là où je vais mettre un bémol, c'est que ces 3 milliards, si on ne les met pas aujourd'hui dans de la pierre, où allons-nous mettre les détenus? Et là, je rejoins la dignité humaine et ce concept, on ne peut pas, et j'ai vu en tant que surveillant.
Alors vous avez vu quoi exactement? Décrivez-nous les choses. Parce que moi je dis surpopulation carcérale, 118%, ça veut dire quoi? Quand on est gardien de prison, on voit quoi?
Alors écoutez, c'est simple, quand vous êtes surveillant pénitentiaire, moi j'ai commencé à la maison d'arrêt de Nice. Parfois vous ouvrez des cellules, alors la maison d'arrêt de Nice, c'est Monte Cristo, elle est ancienne, hein. On la rénove sans arrêt, mais elle a son âge. Et quand vous ouvrez une cellule, mais c'est pas un détenu que vous avez, c'est pas deux, parfois c'est 10. Alors les cellules sont un peu plus grandes que 9 mètres carrés, mais 10 personnes, H24, si elles n'ont pas de travail, si elles n'ont pas envie d'aller en promenade, vous pouvez vous douter que c'est compliqué des deux côtés, autant pour le surveillant pénitentiaire que pour la personne détenue.
Et les conditions d'hygiène élémentaires sont respectées ou pas dans une cellule que vous venez de décrire de cette manière?
Écoutez, le surveillant pénitentiaire est là pour réinsérer une personne, donc elle est en observation de savoir si toutes ces personnes prennent soin d'elle aussi. Parce que c'est ça le rôle d'un surveillant pénitentiaire qui n'arrive plus à faire aujourd'hui, mais on en parlera plus tard. Mais quand, pour reprendre l'exemple, si vous avez 5-6 détenus dans la même pièce, dans la même cellule, s'il y en a un qui se lave pas, ben je vais vous dire que les autres ne sont pas très bien dans cette cellule. Ça, c'est évident.
On refait un tour de table avant de repartir au standard. Joachim Pueyo, vous souhaitiez intervenir?
Oui, je pense que c'est... je crois que la programmation immobilière, elle est essentielle. Mais le fond, on doit le traiter, évidemment. La prison, on doit donner un sens à la peine. Il faut... La prison, on isole, bien évidemment. On écarte de la société, mais il faut qu'elle insère également. Or, lorsque vous avez une surpopulation, eh bien, vous avez toutes les conséquences. Le caïda qui se développe. Les menaces entre co-détenus, sans compter les violences, sans compter effectivement les difficultés du surveillant de faire régner un minimum d'ordre dans la prison. Et donc c'est cela qu'il faut bien prendre conscience, il faut lutter contre cela. Et puis il y a les détenus les plus fragiles qui, eux, par contre, sont en souffrance. D'ailleurs, on a même créé des quartiers pour mettre les détenus les plus fragiles. Donc, on a aménagé certains quartiers pour isoler les détenus qui sont très fragiles et qui sont sous la coupe des meneurs ou du caïda. Donc, Je pense qu'il est temps, d'ailleurs, quand on regarde ce qui se passe dans les pays nordiques, les détenus sont seuls en cellule. Par contre, pour la magistrature, je pense que nous sommes dans un état de droit. Et ça me paraît tout à fait normal que l'administration doit avoir les moyens pour exécuter les décisions judiciaires. Après tout, c'est le juge qui décide peine de prison, peine de probation, semi-liberté, c'est le magistrat. Et actuellement, dans le code de procédure pénale, on a tous les éléments pour faire des aménagements de peine, pour mettre en place des semi-libertés, pour des libérations conditionnelles. Donc, il faut respecter les décisions de l'autorité judiciaire, donc davantage de moyens pour l'administration pénitentiaire.
Bonsoir Fabien, bienvenue.
Oui, bonsoir. Je me demandais en écoutant ce matin le ministre de la Justice annoncer plus de 10 000 places créées au cours des 10 prochaines années et en même temps Adeline Hazan, la contrôleure générale des lieux de privation de liberté, faire le constat que jusqu'ici, chaque fois qu'on a créé des nouvelles places, en fait on a accru de manière virtuelle le parc disponible pour l'emprisonnement, alors qu'en fait, ça devrait servir en priorité et uniquement même à améliorer les conditions de détention, de suivi, puis de réinsertion des détenus, et non pas à faire croire à la population que on va pouvoir emprisonner plus et à laisser penser que la justice aura du coup à prononcer plus de peines d'emprisonnement. Il ne s'agirait normalement, politiquement, que d'assumer qu'on va améliorer les conditions de détention. Alors comment faire en fait pour que le politique soit bien dans cette clairvoyance et assume jusqu'au bout, dans les 10 ans à venir, qu'on ne va pas virtuellement augmenter des capacités d'emprisonnement, mais bien régulariser des conditions de détention qui sont dénoncées au niveau international comme étant inhumaines.
Excellente question, Fabien. Merci infiniment pour cette intervention. Laurence Blisson vous répond.
Eh bien, le problème, effectivement, c'est
que ce que décrit Joachim Pueyo, c'est construire pour qu'il puisse y avoir éventuellement cellulement individuel et non plus trop de personnes dans une même cellule. C'est pas pour en mettre encore plus. C'est donc pour améliorer les conditions de détention. Comment on fait ?
Bien sûr, et nous sommes tous d'accord sur l'impératif de dignité qui correspond à cette lutte contre la surpopulation carcérale. Le problème, c'est que tant qu'on ne va pas vers une politique réductionniste, c'est-à-dire tant qu'on n'envisage pas le fait que moins de personnes doivent être envoyées en prison aujourd'hui, que un certain nombre de personnes exécutent aujourd'hui des très courtes peines. Je vous donne juste trois chiffres. On a 68 900 détenus à peu près, 58 500 places. Est-ce que vous savez combien de personnes exécutent une peine de moins de 6 mois d'emprisonnement ? À peu près 11 000 personnes. C'est l'équivalent de ce surcroît. Une peine de moins de 6 mois d'emprisonnement. Il y a eu des statistiques qui ont été faites en 2013 qui démontraient que sur ces peines de moins de 6 mois, qui concernent donc des personnes qui ont commis des actes de faible gravité, 97% de ces personnes ne bénéficiaient pas d'un aménagement de peine. Ça signifie que ce sont des personnes qui, potentiellement, pendant le temps de cette détention, vont perdre leur logement, vont perdre leur boulot, vont se retrouver dans une situation de rupture familiale, de désocialisation, qui fait que la société a tout perdu. Alors, c'est là qu'il faut clairement dire que cette construction de places de prison, elle ne résoudra pas ce problème-là. Elle ne résoudra pas, par exemple, le problème auquel sont confrontés des juges d'application des peines. Moi, j'étais en région parisienne. Quand vous vouliez aménager la peine d'une personne, vous vous retrouviez avec des difficultés pour trouver des formations, pour trouver des places en semi-liberté, pour trouver des places dans des lieux, ce qu'on appelle les placements extérieurs. Ce sont des centres d'hébergement, souvent, qui hébergent les personnes, leur fournissent un domicile, leur fournissent un travail, un suivi, potentiellement un accompagnement psychologique, et qui permettent de les structurer. La construction, tout cet argent qu'on va mettre dans la construction, en réalité, il va pas du tout interrompre ce mouvement dans lequel on voit que des peines, des courtes peines sont prononcées et exécutées. C'est pour ça que ce en quoi il faut croire aujourd'hui, c'est donner du contenu aux mesures de réinsertion après la prison, mais aussi avant, ce qui permettra de développer les alternatives.
Il y a des gens qui sont en prison et qui ne devraient pas y être, à vous entendre.
Il y a des personnes, et c'est un constat d'ailleurs que font souvent des surveillants, des directeurs d'établissement lorsqu'on en discute.
Alors on va leur donner la parole. Philippe Campagne, vous partagez ce constat ?
Oui, mais bien sûr, écoutez, moi je suis content d'entendre ce discours, mais il me semble que l'ancienne garde des Sceaux avait mis en place une contrainte pénale qui devait vider nos prisons. À l'heure actuelle, c'est un échec flagrant et monsieur Urvoas demande un audit, notamment au niveau des magistrats, pour savoir ce qui s'est passé. Écoutez, moi, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit, monsieur Peillot, c'est plus compliqué que ça, la prison. Vous avez pas de schéma clair, net, et je reviens sur l'encellulement individuel, mais vous savez que quand vous faites rentrer un jeune homme pour une petite peine qui a 19-20 ans, c'est la première fois qu'il rentre là-dedans, mais le surveillant pénitentiaire, sans son angoisse, eh ben, je peux vous dire que son geste professionnel, le premier, c'est de ne pas le laisser seul, justement. Alors donc, avec toutes ces grandes notions, et c'est ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il va falloir se poser les vraies questions, arrêter de conceptualiser, et on va demander aussi aux législateurs d'avoir du courage, parce qu'il faut venir vraiment dans les prisons et voir ce qui s'y passe.
Alors,
et demander
un peu. Dites-nous ce qui s'y passe. Quand vous dites qu'il faut du courage, ça veut dire quoi alors?
Ben écoutez, à l'heure actuelle, et pour mon organisation syndicale, nous avons remis des documents au chef de cabinet de Monsieur Urvoas sur la classification des établissements. Il faut savoir qu'en France, à l'heure actuelle, vous n'avez aucun établissement qui fonctionne de la même manière. Moi, je peux comprendre un détenu qui n'est pas agressif sur le centre pénitentiaire de Toulouse-Seys, parce qu'on lui a dit qu'il avait droit à la radio, qu'il avait droit à sa PlayStation pour jouer. Bon, mais voilà, dont acte. Et quand ce jeune homme, ce détenu, va partir sur une autre prison, on lui dit que c'est pas le même règlement intérieur. Là, il faut se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qu'on a fait depuis des années? Est-ce qu'on s'est vraiment penché sur le problème de la prison? Donc arrêtons un peu de philosopher, puis rentrons dans le vif du sujet.
Joachim Pueyo, et puis Elisabeth de Saint-Étienne.
Il y a un sujet, parce que effectivement, on a beaucoup de détenus qui exécutent des courtes peines, mais la question qu'on doit se poser, mais pourquoi le tribunal a mis des peines d'emprisonnement de 6 mois ou d'un an ou 2 ans? Parce que, généralement, ces détenus ne sont pas forcément primaires. Ils ont été des fois condamnés à des peines avec sursis, avec des peines avec sursis mises à l'épreuve, ça n'a pas forcément fonctionné et donc ils ont une prison, ils ont une peine de ferme. C'est un premier point. Moi, j'ai pu le constater régulièrement.
Êtes l'ancien directeur de la maison d'arrêt Fleury-Mérogis.
Cependant, actuellement, les magistrats ont tous les moyens pour faire des aménagements de peine. Vous avez la contrainte pénale et Dieu sait qu'il y a eu beaucoup de débats. On a dit que c'était une contrainte qui allait faire développer le laxisme. Bon, mais j'étais partisan de la contrainte pénale. Effectivement, pour certains condamnés, c'était utile qu'ils puissent être suivis à l'extérieur, pris en charge par le service d'insertion et de probation, contrôlés également, parce qu'il y avait également des contrôles, il y avait des obligations également, obligations de se faire soigner, obligations de suivre une formation. Donc la contrainte pénale, c'est une bonne mesure pour notamment des petits ou des moyennes délinquances. Moi, j'en suis convaincu. Maintenant, ce n'est pas à l'administration pénitentiaire de prendre ce genre de décision, c'est aux magistrats. Et si on veut respecter l'état de droit, l'autorité judiciaire, il y a une séparation des pouvoirs. Donc, les magistrats ont toute possibilité pour prendre les bonnes décisions. Et je pense que, dans l'ensemble, ils prennent des bonnes décisions. Il faut regarder, effectivement, les motivations. Et nous, l'administration pénitentiaire, enfin, pas nous, mais le législateur, doit donner suffisamment de moyens à l'administration pénitentiaire pour exécuter. Quant au surveillant, il a un rôle fondamental. On lui demande d'observer le détenu. Comment voulez-vous qu'il observe le détenu si, quand il ouvre une cellule, il a 3-4 détenus devant lui? Et il doit accompagner le détenu. Il pourra le faire que si, effectivement, le ratio entre surveillant et détenu est raisonnable, comme dans les pays nordiques. Donc, le rôle du surveillant, actuellement, eh bien, c'est un rôle où il doit gérer les flux. Il doit aller à l'essentiel au niveau de la sécurité, mais c'est très compliqué pour lui. Donc moi, je suis favorable, effectivement, à ce que propose le garde des Sceaux de façon à améliorer les conditions de détention des détenus, améliorer le travail des surveillants et donner vraiment à la prison son véritable sens.
Elisabeth, bonsoir, vous nous appelez de Saint-Étienne.
Oui, bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir messieurs. Je voudrais savoir si on continue à mêler les primo-incarcérés, c'est-à-dire les personnes qui tombent en prison pour la première fois, et les multirécidivistes. Évidemment, dans un souci de favoriser la réinsertion, si on part du principe que la prison est l'école du crime, voilà, est-ce qu'on sépare enfin ces deux populations?
Très bonne question, merci Elisabeth. Joachim Pueyo, Philippe Campagne, qui veut répondre?
Dans les maisons d'arrêt, il y a des quartiers arrivants. Et donc, théoriquement, les personnes qui sont écrouées sont examinées par différents services. La détention, le service pénitentiaire d'insertion, le service médical, les psychologues, de façon à l'orienter. Mais compte tenu de la surpopulation, eh bien, on n'est pas à l'abri de mettre effectivement un primaire dans une cellule avec d'autres détenus qui sont multirécidivistes. Et c'est pour ça que l'encellulement individuel est important. Parce que si on avait suffisamment de place, il n'y aurait pas de sujet. Le détenu serait seul en cellule.
Philippe Campagne.
Et donc, il ne serait pas mélangé avec des multirécidivistes.
Monsieur Pellio, ça fait longtemps que vous êtes plus chef d'établissement, parce que vous avez raison. Et là, je vais un peu me mettre en colère, mais pas à votre encontre, sur l'administration pénitentiaire et les directeurs successifs. Il faut arrêter de prendre les gens pour ce qu'ils ne sont pas. Les quartiers d'arrivée, c'est une belle idée au départ, oui, c'est très bien. C'est toujours comme ça dans l'administration pénitentiaire. On a de bonnes idées. Sauf que, vous voulez que je vous dise à quoi il sert ? On met des gens qui sont passés en conseil de discipline. On vide, et tout surveillant vous dira la même chose, on vide les bonnes idées de tout leur sens. Les quartiers disciplinaires, maintenant, se déplacent dans les quartiers arrivants. C'est une honte. Alors, me poser la question de savoir...
Expliquez-nous ce que vous voulez dire par là.
Mais écoutez, on a tellement peu de place, et c'est pour ça que mon propos était de dire 3 milliards que dans la pierre. Je ne sais pas, il faudrait y repenser. Il faut vraiment qu'on ait... Notre organisation demande vraiment les états généraux. On a provoqué ça. Pourquoi ? Parce qu'il faut se parler entre nous. Et donc, ce qui
donc
se
on
passe...
On a tellement peu de place
on
que...
On a tellement peu de place en prison qu'on fait bouger tout ça. Et on essaye d'entasser les gens dans des quartiers qui ne sont pas dédiés à ces détenus.
Donc les arrivants, vous les mettez où vous pouvez où, et les là autres, où peut, là où devraient être les arrivants, c'est bien cela ?
Tout à fait.
Et ça, c'est grave. Et ça, c'est grave.
Joachim Cueillot.
C'est grave parce qu'on n'arrive pas à individualiser l'exécution des peines. Et donc, moi, je trouvais que c'était une avancée des quartiers arrivants, sous réserve qu'ils font qu'elles jouent vraiment leur rôle. Si effectivement, les quartiers arrivants, c'est pour y accueillir des détenus qui sont punis suite à un conseil de discipline, ben, c'est pas normal. Il y a des quartiers disciplinaires,
merci,
c'était fait.
C'est ça, c'est voilà. Pas normal, monsieur Pellio. Et ça, ça fait des décennies qu'on le dit. Les organisations syndicales, dont la mienne, le dénoncent et on n'est pas entendu. Quand est-ce qu'on va être écouté, surtout pour les surveillants pénitentiaires et les personnels en général?
Je tiens quand même à préciser le garde des Sceaux a pris la mesure de ces problèmes. Il a pris la mesure. Et je crois qu'il a pris les bonnes décisions. Alors, c'est peut-être trop tard, mais c'est jamais trop tard. Donc, prendre décision, c'est pas du jour au lendemain qu'on va régler la surpopulation pénale, c'est évident, mais il faut absolument commencer par un programme ambitieux. Ensuite, il faudra travailler sur le fonctionnement des établissements pénitentiaires, de façon à ce que le taux d'activité soit supérieur, c'est-à-dire que les détenus puissent avoir du travail, puissent se former, puissent également suivre des cours. Ils le font, mais c'est pas suffisant.
Parce qu'entendre le garde des Sceaux, l'oisiveté est un problème c'est absolument mal, dramatique
c'est
en prison.
C'est le mal endémique absolument. De la prison.
C'est le mal endémique absolument. De la prison, l'oisiveté. Expliquez-nous, ben oui. Monsieur le député, expliquez-nous.
Oui, parce que je pense que la prison, elle doit permettre à un détenu de pouvoir travailler, de pouvoir se former. Parce que souvent, nous avons des jeunes détenus qui ont échoué à l'extérieur. Ils ont échoué au niveau de leur formation professionnelle. Ils ont échoué au niveau de leur formation initiale. Et donc, si on peut leur donner goût à suivre une formation, à trouver ensuite un travail dans la prison, eh bien je crois que ça facilite l'insertion quand ils sortiront, parce que les détenus sortiront. Donc on a intérêt à préparer la sortie, d'où effectivement la progressivité de la peine. Moi je suis favorable à la libération conditionnelle, je suis favorable à la semi-liberté pour les courtes peines, parce que là on implique le détenu dans sa façon d'exécuter la peine. Il faut impliquer le détenu. Si on ne l'implique pas, eh bien on échoue.
Sur l'oisiveté, Laurence Blisson.
Effectivement, le temps carcéral est aussi vide que les prisons sont pleines. Concrètement, le quotidien d'un détenu qui est en maison d'arrêt, c'est-à-dire en général qui exécute une courte peine, c'est d'abord celui de vivre dans une cellule surpeuplée, c'est souvent des conditions d'hygiène et de dignité qui, de fait, ne sont pas remplies, et c'est donc 22 heures sur 24 dans la cellule. C'est des détenus qui sont très peu nombreux à accéder aux activités. Quand ils travaillent, quand ils sont appelés au travail, on va avoir finalement un système dans lequel ils travaillent très peu d'heures. Ne parlons pas de leurs droits et de leur rémunération, qui est ahurissante. L'accès à des formations, l'accès à l'école n'existe quasiment pas en prison. Bien évidemment qu'il y a des efforts qui sont faits par l'administration pénitentiaire en ce sens. Néanmoins, on reste dans une situation proprement indigente.
Sur l'oisiveté, Philippe Campagne.
Alors, je rejoins ce discours. Par contre, là où je mettrais un bémol, c'est sur le... Vous ne faites pas la différence entre le travail et les activités. Alors là où il faut être clair, c'est que je vous rejoins, il n'y a pas assez de travail, et on pourrait parler là-dessus. dessus sur le salaire des détenus. Ça, c'est un débat après qu'on peut avoir. Mais il faut bien différencier les activités en maison d'arrêt. Le surveillant court. Pourquoi on dit que le surveillant n'a plus le temps d'observer, le renseignement pénitentiaire, on n'en fera jamais. Au vu des coursives où vous devez gérer entre 90 et 130 détenus, entre les parloirs, les activités écoles, les activités monopoly, je suis surveillant, j'ai accompagné des détenus. Non, faut arrêter. Ils sont intéressés. L'administration pénitentiaire, là, a fait des efforts ces dernières années. Pas sur le travail, pas sur les ateliers qui étaient intégrés dans nos maisons d'arrêt et dans les centres pénitentiaires. Mais il faut bien dissocier les
deux
choses.
Un mot rapide, Laurence Blisson, et la parole à Sarah ensuite.
Sur les activités, que ce soit une difficulté pour les surveillants pénitentiaires parce qu'ils sont en nombre insuffisant, ça c'est une réalité. Mais il faut aussi réfléchir derrière à qu'est-ce qu'on veut penser comme espace carcéral. En maison d'arrêt, la porte est fermée. Quel que soit le régime, quelle que soit la durée de la peine, la porte est fermée. Concrètement, il y a donc un rôle qui est le rôle du surveillant, qui va être d'ouvrir les portes, d'accompagner tous les mouvements, etc. Et c'est compliqué. C'est une organisation d'ailleurs assez extraordinaire. Est-ce que on ne veut pas, à un moment, envisager, en dehors de certains quartiers très spécifiques, de changer cette donnée-là, dans certaines maisons d'arrêt, avoir des quartiers ouverts, avoir de la circulation aussi, parce que la circulation, les possibilités de dialogue, etc., permettent de diminuer le recours à la violence. Ça permet d'avoir du dialogue à la place du conflit. Ça permet, à un moment, de replacer le surveillant aussi dans le rôle qui a été rappelé et qui est essentiel, qui est un rôle de réinsertion, de travail à la réinsertion, de travail avec de l'humain, de pas être simplement dans un rapport qui va être le rapport dans lequel le détenu demande quelque chose, ne l'obtient pas parce qu'il est face à un surveillant seul, et du coup, du conflit, de la violence.
Sarah, bonsoir et bienvenue dans Le Téléphone Sonne.
Bonsoir.
Nous vous écoutons.
Merci. Alors, donc, je suis femme de détenu et effectivement, je voulais réagir à cette annonce de création de place. Parce que je ne vais pas évoquer les conditions de détention parce qu'elles sont aux antipodes des clichés qui sont véhiculés du type Club Med. Vous avez la justice anglaise qui a refusé une extradition qui a été demandée par la France le 1er mai 2014 du simple fait des conditions de détention. Moi, ce que je veux dire, c'est que mon conjoint est actuellement en détention, donc c'est une longue peine. Il a eu un parcours carcéral, j'ai vu visiter des maisons centrales, des centres de détention, des maisons d'arrêt. Et il a systématiquement demandé à travailler en détention. Son salaire, donc les quelques emplois qu'il a pu occuper, lui ont permis pour 120 heures travaillées d'obtenir une rémunération de 194,64 €. C'est un taux horaire de 1,62 € de l'heure. Sachant qu'avec cette somme, il doit indemniser les parties civiles, il doit œuvrer pour sa réinsertion et il doit assurer sa subsistance en achetant de quoi manger. Pour information, il achète de quoi manger en détention à un prestataire extérieur qui vend en moyenne, à titre d'exemple, un paquet de spaghettis, il coûte 146,15% plus cher en détention qu'à l'extérieur. Donc si vous voulez, l'idée du travail en dérision, pour ne pas le faire arrêter de travailler parce qu'il doit continuer de travailler pour démontrer sa volonté de se réinsérer, on tourne en dérision le taux horaire, on le convertit en paquet de spaghettis, vous voyez ? Mais c'est de la dérision. Vous voyez, on ironise dessus. Et l'autre question, l'autre remarque que je voulais aborder, c'est qu'on parle de réinsertion, mais la réinsertion, elle n'existe pas. Ça se pipe, et dans tous les établissements pénitentiaires que j'ai pu visiter, n'a pas le temps de s'occuper de ces dossiers. Elle est surchargée, et les formations, c'est moi qui les recherche, je dois jongler entre le bureau et la discrétion qui s'impose auprès de mes collègues, et les recherches à l'extérieur en contactant les centres de formation, en lui faisant adresser en détention un dossier de candidature qui va essayer de remplir et qu'ensuite on retournera à l'extérieur. Mais sa SPIP ne peut absolument pas faire suivre, ne peut absolument pas donner suite à ses demandes. Donc moi l'idée c'est de vous dire qu'actuellement, si vous n'avez pas un entourage familial qui vient en complément du travail du SPIP, le détenu n'y arrive pas. Il ne pourra pas y arriver. Donc l'idée c'est de dire, quelle est cette volonté de créer de nouvelles places de prison ? Ne faut-il pas plutôt mettre les moyens pour réinsérer les détenus actuellement qui souhaitent absolument se réinsérer, mais auxquels on n'offre pas de perspective ? Et oui, et donc voilà.
Merci,
sachant
Sarah.
Il faut rappeler, excusez-moi, mais il faut tout de même rappeler Permettez-moi de rappeler le classement du CEPEJ, du Centre européen qui mesure l'efficacité de la justice et dont le budget de la justice en France est au niveau de l'Azerbaïdjan. Mmh. Vous voyez ?
Merci Sarah pour ce témoignage, ces informations. J'aimerais donner la parole à Marc tout de suite dans la foulée. Bonsoir et bienvenue dans le téléphone sonne.
Oui, bonsoir Monsieur Demorand et merci pour vos émissions.
Merci à vous.
Moi j'ai été incarcéré à la maison d'arrêt de Nevers du 9 juin 2015 au 23 août 2015, donc ça correspond à peu près à 80 nuits. J'ai fait du quartier disciplinaire pour avoir déclenché une alarme intentionnellement. Parce qu'on cherchait à me casser, donc je suis quelqu'un avec un certain niveau social et j'avais une certaine rhétorique par rapport aux gardiens et ils pouvaient pas m'atteindre. D'autre part, je voudrais dire que pendant ma détention, j'ai vécu un drame, j'ai vécu le suicide d'un codétenu qui était en quartier disciplinaire, qui avait prévenu les surveillants qui passeraient à l'acte. Malheureusement, comme il n'y a pas assez de suivi, les surveillants passaient toutes les heures pour vérifier à l'ojeton, ce qui est largement suffisant pour se pendre. D'autre part, il s'est pendu au quartier disciplinaire. Il n'aurait pas dû avoir de quoi pouvoir se pendre. Mmh. C'est passé au journal régional. Donc, moi, j'étais à la maison de Nevers, donc Bourgogne, je pense, France 3, dans le journal local aussi. Moi, je peux juste vous dire que j'ai été lâché de la prison. Je suis sorti sans aucun suivi derrière, rien du tout. On est rendu à la vie civile comme un map propre. C'est-à-dire 24 heures avant ma sortie, je ne savais pas si j'étais sûr de sortir. Le matin, on est venu me voir, on m'a dit « Vous faites votre chambre, vous faites votre paquetage, vous rendez vos affaires, vous sortez à telle heure. »
Merci Marc pour ce témoignage. Je vais faire réagir mes invités ici en plateau. Philippe Campagne, à la fois sur le témoignage de Sarah et celui de Marc.
Voilà, je voudrais revenir sur ce que madame a dit. Alors, c'est pas le Club Med d'une prison, bien entendu. Je pense qu'on se trompe sur les mots, on n'a pas le même dictionnaire. Moi, par contre, je voudrais dire, et vous l'aurez compris, je suis un peu en colère, que c'est un foutoir institutionnel. Il y a des gens qui devraient pas être dans les droits communs. Monsieur Pieillot a dit que oui, quelqu'un peut être incarcéré à 6 mois et alors avoir un CV long comme le bras. Pourtant, je voudrais revenir sur ce qui nous tient à cœur, la classification des établissements qu'on a proposé au ministre. Pourquoi ? Parce que madame a raison. C'est vrai qu'on ne peut pas rester en France en disant qu'il y a une surpopulation, on manque de cellules et de lits, alors que sur 96 établissements pour peine, on a 2500 places qui sont vides. Il y a un réel effort à faire. Juste revoir notre organigramme, revoir le parc pénitentiaire et mettons-nous au travail, parce que ça, on ne peut pas l'entendre. Et je veux juste en finir aussi avec la réaction de monsieur. Et oui, la prison doit être repensée parce que on y voit des choses terribles. C'est certain. Des suicides, je peux vous parler aussi de suicides de surveillants. On défraie la chronique. On avait sorti un rapport là-dessus et malheureusement, détenus comme surveillants, ben, y a des morts. Mais c'est ce qui nous fait dire qu'il faut tout repenser, mais pas à chaud et vraiment suivre ce que disent les professionnels et qui voyaient ça au quotidien.
Laurence Blisson sur les deux témoignages de nos auditeurs.
Je veux d'abord appuyer effectivement le témoignage de Sarah qui a évoqué le service pénitentiaire d'insertion et de probation.
Ce
sont des acteurs essentiels dans la préparation de la sortie, dans le maintien des liens familiaux et qui sont en nombre absolument insuffisant. Il y a eu certes des annonces de création de postes, elles n'ont pas été toutes mises en œuvre très largement et surtout elles sont insuffisantes. Aujourd'hui, un conseiller d'insertion et de probation, il a entre 100 et 120 dossiers, quand dans dossiers, en réalité personne dont il s'occupe, mais malheureusement les conseillers d'insertion et de probation disent que finalement ça devient des dossiers parce que en Europe, ailleurs, les conseillers d'insertion et de probation, ils suivent 40 personnes. On voit qu'on peut pas faire un travail sérieux de réinsertion dans ce cadre-là, et malgré l'investissement de ces personnels. Ce que je veux dire aussi, c'est que le droit du travail doit faire son entrée en prison, que c'est essentiel que le Conseil constitutionnel l'a refusé, parce que le droit a pénétré les prisons. Il le pénètre parfois difficilement, et puis il y a des retours en arrière, quand on parle de fouilles, par exemple. Mais il existe et il doit pouvoir être reconnu. Et en l'occurrence, le droit du travail, c'est aussi dire aux détenus, vous n'êtes pas mis à l'écart de la société en dehors de la privation de liberté. Et vous restez des citoyens comme les autres avec des droits. Mmh. Ça veut dire aussi, par exemple, du droit à la syndicalisation et ça veut dire de l'expression collective et ça, c'est essentiel. Et l'expression collective, c'est aussi un élément qui permet de lutter contre l'isolement, contre ces situations dramatiques qui conduisent effectivement à ce que aujourd'hui le taux de suicide en prison soit extrêmement fort parce qu'il y a de la désespérance très forte en prison. Cette désespérance-là, la Cour européenne des droits de l'homme l'a constatée lorsqu'elle a condamné la France pour l'état de ses prisons.
Joachim Pueyo, sur ce que disait Sarah quant au prix des aliments qu'achètent les prisonniers, comment ce prix s'établit-il ?
Alors, vous avez plusieurs types d'établissements. Vous avez l'établissement public, vous avez l'établissement à gestion mixte avec des sociétés privées.
Et là, un paquet de pâtes, ça doit coûter le prix d'un paquet de pâtes en prison
oui,
ou ailleurs.
Oui, mais je connais pas les prix, mais si vous voulez...
Non, mais est-ce que c'est scandaleusement plus cher en prison que dans un supermarché ou pas ? Sarah semblait dire oui.
Moi, quand je travaillais dans cette administration, on avait le panier. C'est-à-dire qu'on avait des produits et on devait effectivement mettre le prix de façon à ce que les prix soient quasiment équivalents à ce qu'on trouvait à l'extérieur. Il y avait toujours un peu de différence, mais ça, on voulait l'atténuer. C'était l'objectif de l'administration pénitentiaire. Il y a eu des inspections, il y a eu des enquêtes. Alors, il y a peut-être eu dans certains établissements des prix un peu exagérés,
mais
effectivement, c'est pas normal.
Expliquez-nous pourquoi. Comment se construit ce prix-là ? J'ose pas employer l'expression de clientèle captive parce qu'elle est très malvenue, mais c'est quand même ça.
Oui, mais si vous voulez, moi j'ai vu des établissements, par exemple, ils achetaient leurs produits dans la plus grande surface proche de l'établissement. Et donc, ils prenaient un petit pourcentage pour gérer, effectivement, tout ce qui est lié à l'administration. Bon, mais sur les cantines, alors je ne connais pas ce cas précis de cette dame, il y a eu des efforts de fait, je vous l'assure.
Parce qu'il y avait des abus, d'accord. S'il y a eu des efforts, c'est qu'il y avait abus.
Bon, Philippe Campagne, vous voudrez... D'autre part, je voudrais dire un point.
Rapidement.
Dans les établissements pour peine, il n'y a pas de surpopulation pénale. Les détenus sont seuls en cellule. Bon, c'est un premier point. Quant au travail, il est vrai que on réclame depuis plusieurs années, effectivement, une valorisation du travail pénitentiaire. Mais on a réellement un souci en Italie. Ils ont aligné le droit du travail en prison comme dans la société. Il n'y a plus d'entreprises qui veulent travailler en prison. Donc il faut absolument chercher les entreprises qui veulent travailler en prison. Et ça, c'est compliqué.
Philippe Campagne.
Je voudrais réagir sur les cantines. Parce que alors, moi, je suis bien au courant. Je vais distribuer les cantines. Alors, c'est tout et n'importe
C'est-à-dire
quoi.
C'est-à-dire les aliments que les détenus achètent.
Alors voilà, exactement, bien sûr, ils cantinent, on leur donne des fichiers où il y a tous les produits, et les prix, alors voilà, c'est là où le bas blesse, c'est que une petite maison d'arrêt qui a l'habitude de travailler avec un artisan à côté ou une petite supérette va appliquer tel prix. Et vous allez ailleurs, c'est ce que je vous disais, mais ça c'est pour tout, on fait autre chose. Mais moi j'ai fait un rapport avec mon organisation syndicale Force Ouvrière Pénitentiaire, et à des moments, vous aviez le paquet de pâtes, bien sûr, qui était peut-être un peu plus cher, et d'autres fois vous achetiez du Nutella, et qui était beaucoup moins cher que les mamans pour leurs enfants les supermarchés où on peut aller. Il faut relisser tout ça. Il faut relisser tout ça et je voudrais revenir aussi sur le droit en prison. Il faut vraiment revenir au droit en prison, mais pas au détriment de la sécurité et de la réinsertion, c'est-à-dire des missions des surveillants parce qu'il faut penser aussi un peu aux professionnels qui sont là pour aider au quotidien les détenus parce que c'est eux qui font la gestion des prisons.
Merci à tous les trois et merci aux très nombreux auditeurs de France Inter qui ont participé au Téléphone Sonne. Et donc à cette journée que vous proposez la rédaction aujourd'hui sur les prisons en France, 19h58.